l'Église de la fin des temps. Je voudrais commencer d'abord par un état des lieux. Pour cela, je vous invite à regarder dans le livre d'Apocalypse, chapitre 16, à partir de verset 12. Voici ce que dit l'Écriture. Le sixième versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et son eau tarit, afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Et je vis sortir de la bouche du dragon, souligné dragon, et de la bouche de la bête, souligné bête, et de la bouche du faux prophète, souligné faux prophète. Trois esprits impurs, semblables à de grenouilles. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour de Dieu, du Dieu Tout-Puissant. Voilà, le reste est tout aussi intéressant. L'état des lieux est tel que nous découvrons la présence de trois couronnes. La première, celle du dragon, la deuxième, de la bête, et la troisième, le faux prophète, qui nous montre la manière dont Satan a organisé finalement cette terre. Le dragon, c'est lui qui a organisé le contrôle de toutes les religions, quelles qu'elles soient. Les religions basées sur la cérémonie, les religions basées sur les loges, toutes les religions idolâtres, la fausse chrétienté, tout ce qu'on veut. Et puis la bête, c'est toujours Satan. Mais cette fois-là, il organise tous les systèmes politiques. Pour ceux qui ne le savent peut-être pas, l'ordinateur central qui contrôle l'Union européenne, qui est à Bruxelles, ça s'appelle la bête, The Beast. C'est charmant. Et puis le faux prophète. Pour arriver à son dessein, il contrôle tous les systèmes de diplomatie. Enfin, je ne suis pas là pour développer cela, mais nous comprenons comment il agit. Alors, la couronne la plus basse, c'est des politiques. Au-dessus des politiques, il y a les financiers qui font et défont les politiques, quand ils veulent, en créant toutes sortes de crises, à travers le monde entier. Et au-dessus, il y a les religieux. On se retrouve, entre autres choses, dans une confusion au travers d'un organe, d'une organisation, d'une institution appelée dans les langues très anciennes Vatiscan, qui veut dire le serpent rusé, malheureusement. Et on se demande ce qu'un serpent rusé peut faire dans la chrétienté. Soit. Et c'est dans cette atmosphère que l'apôtre Paul, quand il va écrire à l'église d'Éphèse, chapitre 3, à partir du verset 10, il dira que les dominations, les autorités dans les lieux célestes doivent connaître par l'église la sagesse infiniment variée de Dieu selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur, en qui nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Mais la question que l'on peut se poser aujourd'hui, est-ce qu'aujourd'hui l'Église est capable de manifester cette sagesse infiniment variée de Dieu aux autorités, quelles qu'elles soient, célestes ou terrestres ? Il me semble qu'elle ait perdu sa place. L'Église est devenue tellement faible qu'elle ne fait plus entendre la voix de Dieu. Une situation, on ne peut plus, triste. Est-ce que cette Église est encore celle que Dieu veut, celle que notre Seigneur veut ? On est en droit de se poser ces questions. Et c'est pour cela qu'ici, nous devons réfléchir ensemble. Ce Seigneur de la foi, en qui nous avons la foi, notre Seigneur Jésus-Christ, que nous confessons tous, que nous prétendons servir. Mais souvent, on le sert dans la division. Une des faiblesses des églises, de l'Église des temps de la fin, dans les conflits. Parce que celui qui combat l'Église, c'est une chose. Que d'abord, les conflits servent à réduire l'énergie pour l'accomplissement d'une mission, celle que le Seigneur a assignée à la terre. 2. Il s'en sert, je parle des conflits, pour renforcer l'image négative de notre foi auprès des inconvertis. 3. Le méchant qui contrôle les religions, qui attaque la vraie Église, sait que si ses enfants sont en conflit, cela blesse le cœur du Père. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, le Père ne retrouve plus sa famille. Sa famille qui est dans l'antagonisme et dans les discordes aussi. Mais il sait aussi que cela ouvre les portes à toutes les attaques contre l'Église. Et c'est pour ça que je pense qu'un jour comme celui-ci, où malgré nos manières de penser, malgré nos dénominations, hélas encore là, faut-il savoir que ce n'est jamais une dénomination qui sauve, c'est le Seigneur. C'est pour cela qu'il faut s'attacher à lui et non pas à une dénomination. Une dénomination n'a jamais sauvé qui que ce soit. Ainsi donc, si nous posons cet état de lieu, nous devons choisir de nous en sortir, de récupérer notre place pour que Dieu retrouve sa famille et que Dieu retrouve ses moyens d'action ou son moyen d'action sur la terre, c'est-à-dire l'Église. L'Église, par ailleurs, appelée l'épouse. J'aurai peut-être le temps d'y revenir sur l'épouse, parce que c'est très important. Et sa mission auprès de l'époux. Je pense bien peut-être l'après-midi si nous avons le temps. L'épouse que nous voyons Dieu sortir d'Adam par l'ouverture de son côté, tout à fait comme l'Église a été formée lorsque Christ, à l'instant où il est sur la croix, on lui a ouvert son côté. Et 50 jours après, à la Pentecôte, la fois l'Église a été formée de la même manière. Et il tient à son épouse céleste, qu'il veut trouver sans tache, ni ride, ni rien de semblable, qui se prépare pour enlever. Ainsi, nous voyons quand il s'adresse à l'apôtre Jean, n'oubliez pas que Jean est le symbole de l'esprit, parce que l'homme, qui est un être trinitaire composé du corps, de l'esprit et de l'âme, on voit lorsque Jésus-Christ est avec ses trois disciples, ses trois apôtres dans le jardin d'Éden, et le choix n'était pas dû au hasard, parce que Pierre est le symbole de l'âme, un homme très émotionnel. Jacques, le seul apôtre qui a parlé du corps. Et Jean, le seul qui était resté au pied de la croix lorsque tout le monde avait fui. Et voilà qu'il va se retrouver avec eux dans le jardin de Gethsémané, parce qu'il devait opérer une grande délivrance à partir de cet instant. Délivrance telle qu'au moment, à l'instant où il était en train de souffrir, c'était le temps où les péchés de l'homme, l'âme, l'esprit et le corps étaient transmis sur lui, avant qu'il ne puisse monter sur la croix. Pour crucifier le péché, finalement, qu'est-ce que c'est que le péché ? C'est quelque chose qui froisse la dignité de Dieu lui-même. Et nous voyons comment l'œuvre du diable au travers le monde est le plus grand problème dans le monde, comme vous pouvez le voir. Pierre l'a dit, c'est la socialisation du péché. Toutes les lois qui sont votées aujourd'hui, toutes les tendances visent à cela, socialiser le péché. Je vous parlais de ce système de Babel qui finalement n'a qu'un but, éloigner l'homme du cœur de Dieu. C'est tout. Je pourrais encore en dire davantage. Parce que finalement, Babel, qu'est-ce que c'est ? La confusion. Et l'être aujourd'hui est dans une terrible confusion. À dessein. Et on se retrouve aussi avec une série des gens qui veulent être des ponts entre Dieu et les hommes. C'est pour ça qu'on les appelle des pontifes. Ce n'est plus le Christ qui est le médiateur entre Dieu et les hommes. Parce que le mot pontife veut dire un pont. Ça me fait trembler quand je lis l'Écriture. Mais où est la place de celui qui est mort pour nous? Où est la place? Enfin, j'en passe. Ainsi donc, l'Église telle que nous sommes, je pense qu'il est temps de prendre conscience que nous ne sommes pas ce que l'époux aurait voulu que nous soyons. Dans ces temps de la fin, nous devons nous amender. Ainsi, commençant par le principe même de l'Église, Ecclésia, quelque chose qui est sorti du monde, que le Seigneur a mis à part pour lui, pour manifester sa volonté sur la terre. Ainsi, nous pouvons dire que ton règne vienne. Mais quel est ce règne du Seigneur que nous apportons sur la terre? J'ai souvent l'habitude d'enseigner, mais c'est bien de dire que ton règne vienne. Mais bon, sur la terre comme au ciel. Mais alors, quel est le standard qui est dans les cieux et que nous devons ramener sur la terre? Parce que dans les cieux, pour ceux qui ont déjà eu l'occasion ou qui auront un jour l'occasion de voir ce qui se passe là-haut, tout est en or, tout est parfait, tout est en pierre précieuse, les parcs et les rues, les belles fleurs, tout. Donc, le standard de l'excellence que nous devons amener sur la terre. Est-ce que nous amenons ce standard de l'excellence sur la terre? Chacun peut répondre à cette question. Et j'en passe. Ainsi donc, nous voyons que lorsque Dieu va appeler Abraham, après la chute d'Adam et Ève, la première occurrence, c'est dans le livre de la Genèse, on appelle Abraham l'Hébreu ou l'Ivri. Déjà à ce niveau-là, c'est le principe de l'Église. Celui qui est passé de l'autre côté. Mais il est passé de l'autre côté, pourquoi? Pour transmettre. Transmettre quoi? Mais le message divin. Quel est ce message divin? On le voit tout de suite en conflit avec le roi de Sodome, qui vient vers lui et lui dit, écoute Abraham, donne-moi les hommes, et moi je vais te donner les richesses. Il me semble aujourd'hui que ce roi de Sodome parle encore dans l'Église. Parce que finalement, c'est ça l'évangile de la prospérité. On s'occupe des biens matériels, de l'enrichissement, mais on ne veut pas s'occuper des âmes. Et pourtant, Christ est venu pour sauver justement les âmes. Je vois aussi par là, lorsqu'on amène cet homme qui était paralysé au Seigneur, il était sur un lit, on va tout faire, on ouvre la toiture, et pendant ce temps-là, bon, il faut savoir que c'est une maison qui n'appartenait pas au Seigneur. Il dit même pas, attendez, cette maison ne m'appartient pas, ne détruisez pas la toiture, mais il laisse faire. Et le voilà qu'on le laisse descendre. Étonnamment, il établit un processus. Il est venu pour qu'on guérisse sa condition, son corps. Mais Jésus va dire non, commence par dire, tes péchés te sont pardonnés. Ouais, souvent, l'homme présent veut que ses problèmes soient résolus. Alors que l'intérêt de Dieu, c'est que d'abord l'âme soit sauvée. Il sauve d'abord l'âme. Après avoir sauvé son âme, alors il lui dit maintenant, lève-toi, marche et va. Et c'est là qu'il s'occupe des problèmes. Ça vient juste après. Et voilà finalement l'homme, une fois que ses problèmes de l'âme traités, va se lever, il prend son lit, il s'en va. Amen. Finalement, même les foules qui l'empêchaient de passer le voir cèdent la place dans l'étonnement. Et nous devons comprendre que cette église des temps de la fin doit tout faire, travailler pour le salut des âmes. Bien entendu, elle va passer au travers des difficultés lorsque Christ et Jésus va se retrouver avec les 12 dans la barque. Il va traverser la mer. Il y avait des vagues, ça tout le monde le sait. Le bateau est basculé, ça et là, parce que le chemin de l'Église des temps de la fin, c'est parce qu'on passe par des persécutions, on passe par des difficultés, on passe par l'agressivité, l'adversité de toutes choses, ce qui est différent d'Israël, dont le chemin était le désert. Mais à partir du moment que nous avons le Maître à bord, nous savons que nous ne pourrions jamais couler. Parce qu'il va se lever, il suffit de ne pas le laisser dormir et de crier « Maître, Maître, nous coulons ». Il se lève, et parce qu'il connaît la structure spirituelle qui est derrière la vague, il va s'adresser à cette vague, quelle que soit la vague qui se lève, et dire à cette vague « Silence ». Parce que dans tous les cas, on ne peut dire « Silence » qu'à quelque chose qui parle. Les gens voyaient la vague, mais le Seigneur voyait la structure spirituelle qui conduisait la vague. Donc l'Église aussi, qui est à bord, doit apprendre à voir les choses selon la perspective et à connaître les structures spirituelles qui font que les choses n'avancent pas et à pouvoir combattre et à pouvoir les faire taire par la puissance de celui qui demeure en nous, Yeshua de Nazareth, le Dieu venu en chair. Je voudrais terminer assez vite cet état des choses, cet état des lieux, pour que nous puissions rentrer dans le partage proprement dit. Pour cela, je vous invite à regarder dans l'évangile de Marc. L'évangile de Marc. Chapitre 10. À partir du verset 46. Voici ce que dit l'Écriture. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant, il faut le souligner, aveugle, c'est encore plus triste, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et se mit à crier, « Fils de David », ce qui signifie en Israël « roi », Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort, fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle se jeta, plutôt jeta son manteau et, se levant d'un banc, vint vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?»« Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. C'est un texte que tout le monde connaît. Tout le monde a déjà lu. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un homme dont la vocation ne cadre pas avec son destin. Parce qu'il appelait, il s'appelait Bartimée. Timée qui veut dire honneur. Comment ça se fait qu'un fils d'honneur, je ne sais pas si vous pouvez imaginer un fils d'honneur, soit mendiant et aveugle? Mais quel honneur alors? Étonnant. Qui en plus est assis à Jéricho, un lieu de malédiction. Alors là, il y a une inadéquation entre son destin, fils d'honneur, assis dans un lieu de malédiction. Quand vous lisez le livre de Deux Rois, je pense que c'est à partir du chapitre 2, où les gens de la ville vont dire au prophète Élisée que le séjour de la ville est bon, mais que les eaux sont amères. Ça, c'était Jéricho. À la destruction, Jésus avait maudit cet endroit-là. Mais il est assis là, mendiant, un nécessiteux, aveugle, mais incapable d'avoir la vision, la vraie vision de la vie, la vraie vision de son destin. Et ici, le Seigneur nous donne un principe. Quel est le principe? D'abord, un mendiant, vous savez, sa maison, c'est son manteau, il a des cuillères, il a tout là-dedans. Bon, sa dent, là où il peut dormir, il dort, et puis c'est tout, quoi. Le lendemain, voilà. Mais c'est pas brillant. On a l'impression que c'est la situation de beaucoup, de ceux qui se disent enfants de Dieu, héritiers du royaume, héritiers du trône. Mais quel est leur état? Alors que la Bible dit ceci, comme je venais de le dire, dans Éphésiens chapitre 3, verset 10, que l'autorité de Dieu a été laissée à l'Église. Mais ils sont incapables, l'Église est incapable de voir plus loin, elle est aveugle. Il est donc question de changer son environnement. Regarder son environnement et le changer. Et c'est ça la mission de l'Église. Nous sommes l'époux céleste, l'épouse céleste, l'épouse du Christ. Mais quel est cet environnement que nous changeons? Quel est cet environnement que nous transformons? Bartimée avait compris qu'il fallait crier très fort. Crier très fort jusqu'à ce que l'époux céleste entende. Je le partageais encore hier dans la prophétie biblique du livre d'Ésaïe, chapitre 41, à partir du verset 14. Dieu lui-même va appeler son peuple. Il dit, ne crains rien, vermisseau de Jacob, faible reste d'Israël. Un vermisseau, qu'est-ce que c'est? C'est un ver de terre. Quelle image Dieu va donner à son peuple, l'appeler un ver de terre? Ça paraît même une injure, quelque part. Alors que la prophétie biblique, incluse au travers de cette image, c'est qu'un ver de terre ne travaille pas chez Arcelor, ni chez Peugeot, ni chez PSA. Je ne sais pas. Il n'a pas de pied. Il n'a pas de main. Mais pourtant, il vit. Mais où est-ce qu'un ver de terre tire sa force? Il l'attire de la bouche. La puissance d'une nation, la force d'une nation, relève de sa capacité de prier, de sa capacité de crier vers Dieu, tout à fait comme Bartimée, le fils de l'heure, a crié vers le Seigneur jusqu'à faire taire toutes les foules et se faire entendre. Et c'est cela que l'époux céleste attend. Moi, ce que j'aime, c'est cette demande des disciples du Seigneur. Ils vont demander juste deux choses. Pas « Maître, apprends-nous comment interpréter les rêves. » Ni « Apprends-nous à prophétiser. » Ni « Apprends-nous à avoir des plus grandes églises du monde en cristal. » Ni « Non, non, non. » Deux prières très importantes. Deux demandes très importantes. La première, apprends-nous à prier. Parce que tout procède de la prière. Tout. Dans tous ces secrets, dans toutes ces périodes, on verra si on a le temps, on y reviendra. Et la deuxième demande, donne-nous la foi, augmente-nous la foi. Évidemment, parce que la foi, émouna, c'est aussi synonyme de sécurité. Et il y a tout un programme qui est inclus là-dedans. Parce que émouna, trois choses, A, Aleph, le Dieu Tout-Puissant, Mehemeler, le roi, Naaman, qui veut dire fidèle, et quand on parle de la foi, finalement, c'est le Dieu Tout-Puissant, roi fidèle qui nous donne la sécurité. Ça ne vient pas d'ailleurs. Et eux avaient compris qu'ils avaient aussi besoin de la protection de Dieu. Et c'est de cette manière que Dieu protège son Église et son Assemblée, celle de la fin des temps, dans les adversités. Il n'y a personne au monde qui soit à l'abri des adversités. Personne. Il arrive même quand vous mangez, vous mordez la langue. Voilà, l'adversité partout. Vous sortez, vous allez la rencontrer. Même dans l'église, n'en parlons même pas. Personne n'est à l'abri. Et la seule chose qui est importante, c'est donc cette fois où vous vous retrouvez, un, celui qui est tout puissant, deux, celui qui est le roi, trois, mais en même temps, le fidèle. Qui est fidèle, c'est pour ça qu'il dira, entre autres choses, quand il va s'adresser à l'Église des temps de la fin, notamment celle qu'il aimait, parce qu'il en fait même l'éloge, l'Église de Philadelphie. Philos, l'amour, Delphia, les frères, c'est l'amour du frère. Là où c'est manifesté, il dit, voici ce que dit le véritable, le fidèle, le commencement et la fin de toute chose. Entre autres choses, l'Aleph et le Tav. Le commencement est le sceau de Dieu. Il va dire à cette église, je sais que tu as peu de puissance, mais parce que tu as gardé ma parole. Donc, quelle est l'église que Dieu veut? C'est celle qui garde sa parole. Et lorsqu'on garde la parole, lui étant la clé de David, qui veut dire bien-aimé, et ce n'est pas pour rien, ce n'est pas par hasard, que dans la prophétie biblique, l'accomplissement de cette prophétie, il est dit qu'il ne permettra pas que son bien-aimé voie la corruption. Et pourtant, le mot bien-aimé, ça veut dire David. Donc, dans le nom de David, il y avait le nom du Christ et Jésus qui était caché. Alors, ce n'est pas étonnant que David, lorsqu'il va s'opposer au géant Goliath, et encore une fois, dans l'accomplissement de la prophétie biblique très profonde, David qui était roi, sacrificateur et prophète, toutes les trois fonctions du messianisme, le sacrifice, le prophétisme et la royauté, tout réuni dans cette personne, un adolescent de 13 ans, 14, pas plus, va affronter le géant et lui couper la tête. D'ailleurs, c'était un accomplissement de la prophétie biblique parce que lorsque Adam et Ève viennent de chuter, Dieu va donner deux promesses, une au serpent entre parenthèses, ancien ou rusé, comme vous voulez. Il va lui dire, bon, écoute, toi, tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Et que la postérité de la femme t'écrasera la tête. Bien sûr, on parle de la postérité, mais dans les textes anciens, on dit la semence de la femme. Et pourtant, la femme n'a pas de semence. Elle en reçoit. Donc, on parle tout simplement du genre humain. Et que tout passe, sauf la parole de Dieu qui finit par s'accomplir. Il va donc arriver que ce jeune homme va se retrouver en face de ce géant. Tous les géants, je crois que nous en avons, au travers de l'Église, nous combattons. Ce n'est pas évident, ce n'est pas facile. Il y en a qui travaillent pour qu'on puisse vraiment interdire même l'Église, qu'on puisse se réunir. Okay? Alors, on fait passer toutes sortes de messages parce qu'ils contrôlent les médias aussi. On vous traite de secte, tout ce qu'on veut. Destruction, dans tous les cas. Mais tant pis, c'est pas ça qui va nous faire couler. Malheureusement, tous ceux qui ont combattu la parole de Dieu, ce sont ces personnes qui sont restées dans la tombe, mais la parole continue, elle continuera encore, jusqu'à ce qu'elle puisse s'accomplir. Alors on le voit assez rapidement, il tue Goliath, un jeune homme, un adolescent, qui va prendre la tête du géant. Il mesurait 3,66 m. Imaginez ce que c'est. Et il va prendre sa tête, étonnamment, au milieu des ennemis. À cette époque-là, n'oubliez pas que Jérusalem était occupée par les Jébusiens. Ce n'était pas encore Israël à ce moment-là. Un adolescent qui va passer avec cette grosse tête une cargaison macabre. Souvenez-vous que c'était dans la vallée des Lames. Donc il a dû marcher 30 kilomètres. Imaginez un jeune homme. Un enfant. Et la preuve, c'est que même Ésaü a dû poser la question de qui est cet enfant. C'était vraiment un adolescent. Il va faire 30 km de marche avec la tête au milieu des ennemis. Je ne sais même pas comment on ne l'avait pas vu. Et il va déposer cette tête sur une montagne. Je pense qu'il ne savait même pas qu'il était dans le processus d'accomplissement d'une parole prophétique très profonde. Alors, quand va arriver le Seigneur, curieusement, on va l'amener aussi sur une montagne. Une montagne spéciale. Les archéologues ont fait des études, pensant que c'était un endroit où il y avait un cimetière. On n'a jamais trouvé des ossements. Mais cette montagne, la Bible l'appelle la montagne du crâne, au singulier. Mais alors lequel ? On l'a nommé Golgotha. Mais finalement, qu'est-ce que c'est que Golgotha? Sinon un nom contracté de Goliath de Gath. Et on va poser la croix sur cette montagne de Golgotha parce qu'il fallait que la prophétie s'accomplisse, la postérité de la femme. Yeshua sur la croix avec ses pieds percés au-dessus du crâne du géant, au-dessus de la tête du géant, pour montrer que la semence du malin avec tout son pouvoir était écrasée par le Fils de l'homme. Alors là, c'est très intéressant. C'est là que nous voyons la définition de la croix, très bien défini dans le livre des psaumes 85 à partir du verset 10 jusqu'au 12. On nous dit que c'est le lieu où la justice rencontre la paix. Alors, je ne sais pas si vous pouvez imaginer une rencontre entre la justice et la paix. La justice, c'est jamais quelque chose d'agréable. Vous y mettez les frais. Et puis, il y a les sanctions, il y a plein de trucs. Mais que la justice rencontre la paix, tout simplement parce que le sang n'est versé que dans deux conditions. Un, dans la violence, quand il y a par exemple un accident, c'est là que vous voyez le sang. Deux, dans des cas de justice où quelqu'un est tué à cause de la justice. La croix, donc, c'est un endroit où la justice de Dieu à rencontrer la violence de l'homme au travers de la mort du Christ et Jésus comme victime expiatoire pour apporter la paix. Et c'est là que c'est intéressant, la puissance de la croix, la puissance de la résurrection. Malheureusement, aujourd'hui aussi, c'est vrai que l'Église confesse liturgiquement, entre autres choses, l'unité et la puissance de Dieu, mais on ne veut pas la voir se manifester. Enfin, on préfère rester quelque part religieux. On proclame qu'il est tout puissant, mais on ne veut pas qu'il manifeste sa toute puissance. Et surtout, on va regarder ce qui est derrière. C'est vrai que nous devons tout discerner, mais Dieu reste Dieu. Il reste le Tout-Puissant. Il peut intervenir sur la terre comme il veut, quand il veut, et avec qui il veut. Donc, si nous avons compris que le rôle de cette Église de la fin des temps, parce que ça va aller en s'empirant, et Christ d'ailleurs nous dira que lorsqu'on parlera de la paix, il n'y aura pas de paix. Nous savons aujourd'hui, entre autres choses, que ceux qui se disent contrôler le monde, 1% de la population qui détient 99% des ressources du monde entier, ils se disent être au sommet et le reste, ceux qui sont au bas du triangle, sont appelés des goïms, c'est-à-dire du bétail humain. Et c'est comme ça qu'ils nous considèrent. Bétail humain. Est-ce que vous avez déjà vu ce qu'on fait du bétail? Je n'ai jamais vu quelqu'un faire un deuil chez lui parce qu'il a mangé un gigot de mouton. J'ai jamais vu quelqu'un triste parce qu'il a mangé des cuisses de poulet. On peut donc les tuer. On peut les faire souffrir comme on veut. Parce que c'est leur bétail. D'où le programme aujourd'hui mondial de la réduction de la population, parce que l'objectif c'est d'arriver à 300 ou 500 millions d'habitants sur la Terre et les autres, il faut qu'ils meurent. Est-ce que c'est la volonté de Dieu, ça? Est-ce que c'est la volonté de celui qui avait dit « Allez, multipliez-vous et remplissez la Terre » ? Est-ce que c'est la volonté de celui qui est notre Yahweh Jireh, le Dieu qui pourvoit? Est-ce que finalement, quand on regarde le problème même du monde entier, ce n'est pas un problème de ressources, c'est un problème d'égoïsme, c'est un problème de justice. C'est tout. Et où est la place de l'Église? Elle laisse faire. Elle parle juste de la grâce et de l'amour de Dieu. Même si vous n'en parlez pas, Dieu nous aime toujours. Il exercera toujours sa miséricorde sur nous, même si nous n'en sommes pas conscients. La preuve, c'est que le soleil est là. Il y a 7000 habitants à Vittel, mais nous serons combien ici? Donc le soleil brille pour les bons et pour les méchants, pour ceux qui sont dans le Seigneur et ceux qui n'y sont pas, parce que Dieu, il est miséricordieux. Mais ce qui est important pour lui, c'est que l'âme n'aille pas en enfer. C'est que l'âme soit sauvée. Parce que c'est quoi cette vie sur cette terre? 70 ans, 90 ans, 100 ans, 120 pour les plus robustes par rapport à l'éternité. C'est rien du tout. Mais alors le temps que le Seigneur laisse sur la terre, qu'est-ce que c'est? Sinon une portion pratiquée dans l'éternité juste pour l'accomplissement d'une mission sur terre. Et il faut bien utiliser ce temps. J'aime beaucoup la Bible quand elle parle des fils d'Issacar qui avaient l'intelligence du temps. Mais l'intelligence, qu'est-ce que c'est? C'est cette capacité de percevoir par la pensée Et Issachar, qui veut dire salaire, mais le salaire, qu'est-ce que c'est? C'est un prix qui est payé pour un travail qui a été fait. Donc nous sommes appelés à travailler pour le Seigneur, pour que nous puissions voir le prix, mais dans l'espace qui nous a été donné sur cette terre. Et l'Église ne doit pas manquer sa vocation céleste, sa vision céleste. Moi, j'ai eu le privilège de prêcher dans toutes les dominations. Je le fais encore. Chez les Mennonites, les Adventistes, les Baptistes, les Pentecôtistes, toutes les tribus anistes ou aniques. J'y vais pour prêcher la même parole. Parce que je sais que Christ est au-delà de toutes ces choses-là. Il est au-delà de toute religion. Et j'aime souvent dire aux gens que le christianisme, ce n'est pas une religion. C'est la vie. Parce que la religion, qu'est-ce que c'est sinon les moyens que l'homme s'est fabriqués pour atteindre Dieu? Et pourtant, il est impossible que l'infiniment petit puisse saisir l'infiniment grand. La seule possibilité, c'est que l'infiniment grand puisse se révéler à l'infiniment petit, qui lui explique ce qu'il est. Et justement, le christianisme, c'est l'infiniment grand qui descend vers l'infiniment petit pour lui dire ce qu'il est. Alors c'est l'inverse de tout ce qui s'appelle philosophie. Et d'ailleurs, à ce sujet, c'est que la capacité des philosophes, c'est de susciter des questions auxquelles ils ne trouvent jamais des réponses, et ils meurent en laissant les gens dans la confusion. Mais le christianisme est vrai, parce qu'il nous dit où nous devons aller. Il nous dit exactement ce que Dieu a prévu pour nous. Je reviens donc à cette église une fois de plus des temps de la fin. D'abord en vous disant qu'il y a une économie divine. Une économie parfaite. Telle que la solution existe avant le problème. Je vais vous l'illustrer. Dieu sait que l'homme a péché. Déjà le Rédempteur était là, la solution. Et on voit dans la démarche, dans le processus de Dieu, à pouvoir guérir sa création qui était détruite. Je pourrais encore le développer après dans la profondeur, mais je vous donne juste les grands titres pour aller assez vite. L'homme chute, il appelle Abraham, et ensuite nous voyons des naissances, il y a des fautes et tout. À un moment, bon, Dieu n'en peut plus. Il met fin au cycle des violences par le déluge, etc. Et puis il suscite encore la création pour aller de l'avant. Ainsi, on se retrouve avec les trois patriarches plus quatre matriarches. C'est au total le chiffre de la perfection, montrant tout simplement la transformation de ce qui est spirituel sur le plan physique et manifesté. Il va susciter Israël, qui au départ est parti de Jacob. Mais il va aussi passer par un passage, une transformation de Jacob en Israël. Comme je vous le disais dans la prophétie biblique, ne crains rien, vermisseau de Jacob, faible reste d'Israël. La Bible déclare dans le livre d'Exode chapitre 19 qu'ils arrivèrent là, les enfants d'Israël. Et puis Dieu change de langage soudainement. Il dit, il campa là. C'est-à-dire qu'avant que Dieu ne puisse leur donner la parole de Dieu, la Torah, qui est une bénédiction de Dieu pour que nous ne soyons pas sous la menace du diable, sous la menace de l'accusateur, sous la menace du destructeur, il fallait d'abord qu'il soit dans l'unité. Et cette unité, ils y étaient arrivés à un niveau de perfection spirituelle après l'Égypte, comme une seule personne. Alors les conditions étaient réunies pour leur donner la parole, la Torah. Donc l'Église de temps de la fin doit être une Église unie. S'il faut que Dieu puisse nous donner des révélations profondes quant à ces temps de la fin, il ne le fera pas tant que nous serons dispersé. Il attend. On devrait mettre nos différends, tout ce qui nous sépare, et travailler sur ce qui nous unit, le nom de Jésus. C'est tout. Parce que quand Dieu nous appelle, il met en nous, en chacun, une mesure de la grâce. Pas pour nous, mais c'est pour équiper le corps du Christ. C'est pour apporter cette mesure de la grâce pour la construction du royaume de Dieu, la construction du royaume des cieux. Moi, le Seigneur m'a donné plein de trucs. Moi, je ne sais pas chanter, malheureusement. Donc, pour louer et adorer, je dois profiter de la mesure de grâce des bien-aimés qui ont chanté. Autrement, si je chante, eh ben, tout le monde va fuir. Il y a plein de gens, il y a des gens à qui doivent donner la capacité d'organiser, la capacité de recevoir, etc. Nous avons intérêt à nous mettre ensemble. Et après, bon, on peut discuter, faut-il prendre la Sainte-Seine avec du jus ou avec... Ça, c'est des questions de détail. Qu'est-ce qui nous préoccupe? L'essentiel ou les détails? Les uns doivent prier, bon, il y en a qui disent, bon, il ne faut pas prier à haute voix parce que, bon, on dérange Dieu, sinon il va mettre un appareil auditif. D'autres vont dire, c'est parce que, bon, ok, bon. Ça, c'est des questions de détails. Je me souviens une fois, bon, j'avais posé la question à Dieu, comment ça se fait que, bon, dans l'assemblée, on entre dans des assemblées où tout le monde, pour prier, doit prier, parler, tout ce qui s'ensuit. Mais c'est pas normal. Évidemment, parce que bon, j'avais été instruit dans une organisation où il fallait presque se mettre au garde-vous pour entrer dans l'église et tout. Et le Seigneur me dit, mais tu sais que dans le monde entier, on invoque mon nom. Tu dis, mais en fait, c'est vrai, mais il y a combien de milliards de personnes qui parlent en même temps? Toi, tu les vois pas, mais moi, je les vois. Donc ça, c'est pas un problème. J'ai dit, ok. Depuis lors, j'étais délivré. Chacun peut parler à Dieu comme il veut, bon, c'est bon. Donc ça ne doit pas être un motif de discorde, de discussion. Un détail, mais très important. Voilà, on me signale qu'il est temps. On va peut-être prendre une pause avant de rentrer dans la suite. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.